laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant.
Conférence épiscopale du Bénin. Message de carême 2026. Réconciliation, chemin d'unité et de développement d'une nation. Cotonou, le 14 février 2026, en la mémoire de Saint Cyril et Méthode. Introduction. Fils et filles bien-aimés, hommes et femmes de bonne volonté. Cette année encore, nous voulons sacrifier à la tradition de vous rejoindre par ce message en ce temps de carême qui commence. Il nous tient à cœur de vous exhorter à l'expression vivante de votre foi et de votre dignité de fils et filles de Dieu au regard de l'actualité sociopolitique de notre pays. Malgré les lueurs d'espoir, des inquiétudes nourries de méfiance, de mécontentement et parfois de frustration subsistent chez beaucoup de nos compatriotes. Un tel constat ne peut laisser indifférents nos cœurs de pasteurs. Voilà pourquoi nous vous invitons à faire de ce temps de grâce un temps de prière et d'efforts personnels et communautaires pour consolider la réconciliation, l'unité et le développement. Ce sont là des aspirations légitimes profondes que doivent porter tout chrétien et tout citoyen. Il nous semble même vital que tous nous travaillions ensemble à faire advenir la réconciliation, l'unité et le développement. Hélas, les périodes électorales sont généralement délicates et sensibles en Afrique. Et depuis la fin de l'année 2025 et le début de cette année, nous en faisons l'expérience chez nous. Il est donc opportun que nous tournions nos regards vers Dieu, notre Père, de qui jailliront des fruits de bonheur, de paix et de joie pour chacun de nous. Nous, vos évêques du Bénin, vous convions alors à accueillir ce message de carême avec un cœur ouvert et à faire de la réconciliation un chemin d'unité et de développement de notre nation, don du Créateur.
Grand 1. Des observations qui interpellent. Une nation, c'est un peuple, une histoire commune et surtout le désir de vivre ensemble et de bâtir un destin harmonieux. Autrement dit, c'est une marche ensemble vers l'atteinte d'un objectif qui n'est autre que le développement et l'épanouissement de tous ses filles et ses fils. Aujourd'hui, ce principe connaît des déviations qui culminent dans un règne de division qui ne laisse personne indifférent. En effet, au lieu de travailler à rassembler les efforts et à les fédérer pour le bien de chacun et de tous, il s'observe de plus en plus un certain clivage basé parfois sur l'ethnie, mais souvent sur l'obédience politique. Des voix s'élèvent pour défendre les intérêts d'une partie du peuple au détriment d'une autre. Les subterfuges et stratégies exacerbent les rivalités et nuisent gravement à l'organisation paisible et sereine de la vie sociale et politique au Bénin. C'est déjà un grand défi pour l'unité de notre pays et partant pour son développement que nous appelons tous de nos vœux.
D'autres freins à l'unité sont aussi observés à plusieurs autres niveaux. Nous voulons principalement mentionner la méfiance et l'indifférence observées aujourd'hui chez plusieurs de nos concitoyens. Tout porte à croire qu'ils se taisent par résignation ou par peur des représailles. Mais est-il encore nécessaire de rappeler que la vraie unité ne peut se construire sur fond de résignation ou de peur? L'accueil et l'appréciation objective des voix divergentes resteront toujours un atout majeur pour l'édification d'une nation prospère. Celles-ci ne devront pas être perçues comme des freins à l'unité et au développement. Ne pas le reconnaître, c'est refuser de faire face à la réalité au risque de compromettre l'unité à court ou à long terme. Aussi serait-il important de souligner que l'utilisation abusive des technologies de l'information et de la communication et surtout des réseaux sociaux conduit à des dérives qui peuvent porter atteinte à l'unité. Les informations fausses ou tronquées nuisent gravement à la cohésion sociale. La révélation et la diffusion des informations sensibles ou privées dans l'espace public blessent l'âme humaine et mettent à mal les relations interpersonnelles. Nous voulons appeler ici à la conversion les structures établies ou occasionnelles qui alimentent la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux. Le pape François, dont nous saluons encore la mémoire, dénonçait ainsi le phénomène. Je cite. Même en conservant leur confortable isolement consumériste, les individus peuvent opter pour une forme de lien constant et exacerbé qui encourage une hostilité remarquable, des insultes, des abus, de la diffamation et une violence verbale destructrice envers autrui et ce, avec un manque de retenue qui serait impossible dans un contact physique sans nous déchirer tous. L'agression sociale a trouvé un terrain d'expansion sans précédent grâce aux ordinateurs et aux appareils mobiles. Fin de citation.
Que dire du climat de rancune et de rancœur qui gangrène notre vivre ensemble? Il est important que tous les Béninois puissent jouir des avantages liés au respect de leurs droits et devoirs. Le Bénin est le bien de toutes ses filles et de tous ses fils, depuis les chaînes de l'Atakora jusqu'à l'océan Atlantique. Dans la perspective de l'unité nationale à bâtir, il n'est pas admissible que certains Béninois se sentent exclus de la marche de leur pays vers le développement. Toutes ces préoccupations évoquées font le lit des réactions qui mettent en danger l'unité nationale parce que porteuse de frustration et d'exclusion.
L'aménagement territorial qui s'observe par la qualité des nouvelles routes et bâtisses est par exemple un signe visible de l'effort de développement entamé et salué même au-delà de nos frontières. Mais un tel développement aura plus de sens si tous les fils et filles de notre nation se sentent impliqués et engagés. Leur meilleure implication dans le processus les rendrait davantage responsables de l'entretien de ces infrastructures. Mais la satisfaction ressentie est doublée chez certains de nos concitoyens d'un sentiment de perplexité et de critique à peine voilée qui se résume à ces mots. Tout est fait pour nous. Ils ne se sentent donc plus intégrés à la construction de notre chère patrie. D'autres, sur fond de frustration, préfèrent abandonner leur pays pour d'autres horizons où ils espèrent une vie meilleure et plus épanouie. Or, le chemin vers le développement de notre pays est l'affaire de tous. Une fois encore, nous insistons sur le fait que le Bénin appartient à tous ses filles et fils et que son développement doit intéresser tout le monde, sans couleur politique ni ethnique. Dans ce sens, nous écrivions récemment, je cite, toutes les fois où nos intérêts personnels ou ceux de notre région l'emportent sur ceux du peuple et du vivre ensemble, nous effilochons le tissu national que nous nous évertuons pourtant à construire, nous empêchons que les doigts bouchent la jarre trouée et nous bafouons la devise de notre beau pays, fraternité, justice, travail, fin de citation. Toutes ces observations ne sauraient nous laisser indifférents. Nous y attirons votre attention pour qu'ensemble, nous assistions à l'avènement d'une véritable réconciliation nationale, passage obligé vers l'unité, seul gage de notre développement intégral. C'est un chemin à découvrir et à parcourir ensemble et en toute humilité avec la grâce de Dieu.
Grand 2. Réconciliation, unité et développement. Un chemin à parcourir. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Ce cri de cœur lancé par l'apôtre Paul rejoint l'invitation solennelle que nous vous adressons, frères et sœurs, pour ce temps de carême. Il nous donne de comprendre en grande part que Dieu est le véritable auteur de toute réconciliation. Autant il nous inspire de nous réconcilier avec lui, autant il nous appelle à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs et avec toute la création. Cette initiative de Dieu s'est accomplie pour nous dans le don de son Fils qu'il a envoyé pour être notre paix par son sacrifice sur la croix. Saint Paul nous l'expose bien, lui qui s'adressait aux Éphésiens en ces termes. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a voulu créer en lui un seul homme nouveau et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. Éphésiens 2, versets 14 à 16.
Le premier avec lequel nous avons donc besoin de nous réconcilier, c'est Dieu que nous avons offensé par la prévarication de notre père Adam. Nous continuons de l'offenser à travers nos multiples désobéissances à sa volonté divine, qui est paix et bonheur pour nous. Confère Psaume 85. Ainsi, chaque fois que nous avons mis en péril la paix, l'unité et compromis le chemin vers le développement, nous avons rompu de quelque manière l'alliance avec Dieu. Toutes les fois où la haine et la jalousie ont obscurci notre cœur et altéré notre vivre ensemble, Dieu est profondément blessé. Confère Jean chapitre 15, verset 18. Il en est profondément contrarié, sans que son amour miséricordieux ne nous soit jamais retiré. C'est justement au nom de cet amour qui nous appelle constamment à nous réconcilier avec lui. Et il veut que cette démarche déborde sur notre relation avec nos frères et sœurs et nous-mêmes.
Le péché ne fait pas que rompre les liens avec Dieu. Il entraîne aussi une brisure à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qui explique le besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes. Cette réconciliation entre dans un processus essentiel qui prend sa source dans la réconciliation avec Dieu. Elle implique pour chacun l'acceptation de son histoire, le repentir sincère, l'humilité de reconnaître ses péchés. Avec l'aide du Saint-Esprit, elle permet de retrouver l'harmonie intérieure et la paix. Elle pense, guérit et transforme les blessures en marque d'amour, à l'image du Christ qui a tout réconcilié par sa croix. Elle constitue la condition indéniable pour notre paix intérieure. Elle guérit les blessures de nos péchés et nous permet d'accepter nos faiblesses, notre passé et notre condition humaine. Elle nous transforme aussi en ambassadeurs de la réconciliation avec les autres.
Cette réconciliation doit aussi retrouver ses lettres de noblesse dans nos liens interpersonnels et sociaux. Lors de son discours à la curie romaine, à l'occasion de l'échange des vœux le 21 décembre 2009, le pape Benoît XVI affirmait, je cite, « La réconciliation est un concept et une réalité pré-politique qui, précisément pour cette raison, est de la plus grande importance pour la tâche politique elle-même. » Si l'on ne crée pas dans les cœurs la force de la réconciliation, le présupposé intérieur manque à l'engagement politique pour la paix. Fin de citation. Cette disposition intérieure dont parle le pape Benoît XVI est le minimum et en même temps l'indispensable qu'il faut cultiver et qui doit régir nos relations interpersonnelles. Elle a le mérite de faire taire les sollicitations souvent justifiables à la rancœur, au règlement de compte, à l'indifférence et à toutes les autres tares qui mettent en péril le vivre ensemble. Il nous appelle à construire des ponts qui établissent des liens francs et sincères avec les autres. Le pape Benoît XVI poursuit par ailleurs, je cite, « La réconciliation, c'est aussi la restauration des relations entre les hommes au moyen de la résolution des différends et la suppression des obstacles à leurs relations grâce à leur expérience de l'amour de Dieu. » Fin de citation.
Mais bien au-delà de la réconciliation entre les individus, c'est aussi au groupe de personnes et entités sociales que s'adresse l'urgence de la réconciliation. Tant d'oppositions et conflits caractérisent nos relations interpersonnelles et sociales. Fermer ces fissures appelle l'effort de chaque partie à dépassement de ses frustrations et à laisser parler l'amour fraternel afin de créer la symphonie des cœurs vibrant harmonieusement pour un même pays, comme dans un stade où joue une équipe nationale. Alors, revenu à des sentiments plus nobles, les fils et filles d'une même patrie, tout en ayant leurs divergences d'opinion et de conviction, garderont toujours à cœur que le lien qui les unit est toujours plus fort que ce qui pourrait les séparer.
Si la réconciliation est appelée à réparer les brèches entre Dieu et les hommes entre eux-mêmes, elle doit aussi aboutir à écouter la voix de la création. Cette réconciliation avec la création suppose, comme toute réconciliation d'ailleurs, la conversion intérieure. Écoutons à ce sujet le pape François. Je cite, « Une relation saine avec la création est une dimension de la conversion personnelle globale qui implique la reconnaissance de nos erreurs, de nos péchés, de nos fautes et de nos manquements et conduit à un repentir sincère et au désir de changer. Les évêques australiens ont souligné l'importance d'une telle conversion pour parvenir à la réconciliation avec la création. Pour parvenir à cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaître comment, par nos actions et nos omissions, nous avons nui à la création de Dieu. Nous avons besoin de vivre une conversion, un changement de cœur. » Fin de citation.
Dans toutes ces considérations, la réconciliation appelle toujours la condition indispensable de la conversion. dans l'exhortation apostolique « Reconciliatio et penitentia », Saint Jean-Paul II expliquait, je cite, « Cette réconciliation, la Sainte Écriture en parle, nous invitant à faire pour elle tous les efforts possibles. Mais elle nous dit aussi que c'est avant tout un don miséricordieux de Dieu à l'homme. L'histoire du salut, celle de l'humanité entière, comme celle de chaque être humain de tous les temps, est l'histoire admirable d'une réconciliation. Dieu, qui est Père, se réconcilie le monde par le sang et par la croix de son Fils fait homme, et fait naître ainsi une nouvelle famille de réconciliés. Fin de citation. Pour qu'elle advienne, la réconciliation fait inévitablement appel à la conversion. Saint Jean-Paul II précisait justement, je cite, « Un lien interne étroit unit conversion et réconciliation. Il est impossible de séparer ces deux réalités ou de parler de l'une sans l'autre. » Fin de citation. Toute réconciliation qui ne s'accompagne pas de la volonté de quitter le chemin de l'offense ne peut être considérée comme sincère.
Précédée de ce désir de conversion, la réconciliation devient un processus de guérison des cœurs. On ne parle de nécessité de réconciliation que s'il y a brisure, rupture ou blessure. Or, tout comme le péché, qui est une rupture de la grâce de Dieu, les injustices sociales, les offenses contre soi-même et envers le prochain constituent des motifs de blessure dans le cœur de nos frères et sœurs. Les nombreuses attaques contre la nature et l'environnement sont aussi des lieux de blessure qui appellent guérison et réparation. Il est donc indispensable que la sincérité de la réconciliation soit la résultante de tout un processus de guérison des cœurs meurtris. Pour y parvenir, nous avons un précieux atout dans le sacrement de la réconciliation qui est une véritable plongée dans le mystère pascal du Christ comme mort au péché et résurrection à la vie nouvelle. Comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, je cite, « Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessé et qui par la charité l'exemple, les prières, travaillent à leur conversion. » Fin de citation. Pendant ce temps de carême, allons puiser abondamment à la source de la miséricorde divine pour devenir des missionnaires de la réconciliation.
La réconciliation, chemin d'unité. La réconciliation, nous l'avons compris, est un chemin qui implique la demande de pardon et la guérison des cœurs. De ce fait, elle est appelée à aboutir à l'unité des cœurs comme facteur de communion entre les personnes. Nous sommes tous d'accord que le péché et le mal, en créant le désordre dans les relations humaines, désorganisent les liens, rompent la communion avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Cette communion brisée est retrouvée par le moyen de la réconciliation. Ainsi, les cœurs qui étaient séparés se retrouvent et s'unissent en Dieu. Ils peuvent désormais parler un même langage, celui de l'amour et de la compréhension mutuelle. Les relations autrefois abîmées retrouvent la confiance, un atout indispensable à l'avènement de la communion et de l'unité. Pour que celles-ci soient véritablement solides, elles doivent avoir leur ancrage dans la parole de Dieu qui ne cesse de nous inviter à avoir un seul cœur et une seule âme. Confère Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32.
La réconciliation fait aussi retrouver les valeurs de la fraternité, lieu d'expression par excellence de l'unité. Quand les blessures et les situations d'inimitié finissent par laisser la place à la réconciliation, il s'opère comme une recréation, une réinvention des relations. Aussi bien l'offensé que l'offenseur deviennent de nouvelles créatures et découvrent la grandeur et le caractère sublime de ce qui les unit. Ils sont en effet redevenus des frères. Les avantages de cette fraternité sont remarquables dans les Saintes Écritures et mettent l'accent sur la force de l'unité qu'elle suscite. Le pape Léon XIV en relève quelques-uns dans son message pour la Journée mondiale de la paix, donnée le 8 décembre 2025. Il citait son vénérable prédécesseur Léon XIII. Je cite, « C'est dans les Saintes Écritures qu'on lit cette maxime. Mieux vaut vivre à deux que solitaire. Il y a pour les deux un bon salaire dans leur travail. Car s'ils tombent, l'un peut relever son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Coélète chapitre 4, les versets 9 et 10. Et cet autre, le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte. Proverbe, chapitre 18, verset 19, fin de citation.
La réconciliation est donc un passage obligé pour retrouver les valeurs de l'engagement de chacun pour le bien de tous, et celui de tous pour le bien de chacun. L'unité ainsi retrouvée profite à l'ensemble des protagonistes qui sont redevenus des frères et sœurs. Cela est aussi vrai pour une nation et une patrie. Fruit de la réconciliation, l'unité des fils et des filles d'une même nation les conduit à se mettre ensemble pour construire leur pays. Le vrai sens de l'unité recouvrée du fait de la réconciliation se trouve dans la confraternité productive Il est visible dans les efforts pour le développement.
Réconciliation, unité et développement, chemin d'épanouissement et de paix. C'est un lien ténu qui relie la réconciliation, l'unité et le développement, car, comme le stipulent les pères conciliaires, je cite, « Il est inutile de chercher à faire la paix tant que les sentiments d'hostilité, de mépris et de défiance, tant que les haines raciales et les partis pris idéologiques divisent les hommes et les opposent. D'où l'urgence et l'extrême nécessité d'un renouveau dans la formation des mentalités et d'un changement de ton dans l'opinion publique. » Fin de citation. C'est un chemin que tous doivent faire l'effort de découvrir pour l'épanouissement de l'homme tout entier. Nous avions eu l'occasion de vous l'écrire précédemment. Je cite, « Confiant que vous êtes fidèles chrétiens, capables d'assumer cette vocation, nous venons vous exhorter à faire, durant ce carême, un cheminement de communion spirituelle, de changement de cœur et d'action en faveur de la réconciliation, de la justice et du développement intégral dont notre pays a tant besoin. » Fin de citation.
La réconciliation, l'unité et le développement sont étroitement liés. La réconciliation jette les bases de l'unité nationale. Elle invite à surmonter les divisions passées et à restaurer la confiance. Elle est indispensable pour bâtir une société stable où le développement durable peut s'épanouir au plan économique, social et politique, car sans paix ni cohésion, le progrès est entravé et hypothéqué. La réconciliation, l'unité et le développement sont assurément un chemin d'épanouissement pour l'homme, car il y trouve tout son bonheur, comme l'enseigne d'ailleurs le pape Léon XIV dans sa récente lettre apostolique In Unitate Fidei. Je cite, dans un monde divisé et déchiré par nombre de conflits, l'unique communauté chrétienne universelle peut être un signe de paix et un instrument de réconciliation. Fin de citation. Dès lors, nous devons marcher ensemble pour parvenir à l'unité et à la réconciliation en jetant aux orties toutes sortes de controverses destructrices du vivre ensemble pour une nation tournée vers l'avenir et faite de réconciliation sur la voie du dialogue. Et c'est là notre appel, frères et sœurs.
Grand 3, recommandation pastorale. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Frères et sœurs, notre message vous rejoint au début de ce riche temps de carême. Nous nourrissons le profond désir que ce temps de grâce qui commence soit un temps de conversion profonde pour retrouver l'harmonie complète avec soi-même, avec les autres, avec la création et avec Dieu. L'une des paroles qui accompagne l'imposition des cendres nous le suggère vivement. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ensemble, nous avons découvert que la réconciliation appelle forcément la conversion. Voilà pourquoi nous vous exhortons, frères et sœurs bien-aimés, à vous engager sur les chemins de la conversion. Ils mèneront sans nul doute au pardon à accorder et à recevoir, à la guérison des blessures et à l'acceptation de la main tendue en vue de la réconciliation. Nous pouvons donc choisir de vivre le temps de carême de cette année 2026 comme un cheminement qui nous entraîne à cultiver la réconciliation, à valoriser l'unité et à promouvoir le développement véritable.
Dans ce sens, les trois piliers traditionnels du temps de carême sont à poser sous les yeux de notre cœur. Nous vous exhortons à soigner votre vie de prière pendant ce temps. Demandons à Dieu de faire de nous des instruments de la réconciliation, de faire de chacun et de tous les chrétiens des missionnaires de la réconciliation. Nous prierons aussi le Seigneur pour que soient cicatrisées les blessures qui menacent notre vivre ensemble. Et filles d'une même nation, nous œuvrerons pour un Bénin réconcilié et uni. Nous vous encourageons aussi à offrir des actes de pénitence et de mortification comme le jeûne, pour la réparation de toutes les blessures par lesquelles, communautairement ou individuellement, nous avons offensé Dieu, blessé le frère ou la sœur, compromis la cohésion sociale et détruit les œuvres de la création mises à notre disposition par le Créateur.
Les motifs qui peuvent alimenter les conflits sont certainement nombreux. Mais au nom du Seigneur, nous vous invitons à puiser l'énergie nécessaire dans l'Eucharistie, le sacrifice expiatoire du Christ, pour offrir ou recevoir le pardon et enterrer la hache de guerre. C'est sûrement là l'acte suprême de charité, à l'école duquel nous devons aller. L'aumône suppose un sacrifice à faire. Puissions-nous, chacun pour sa part, et tous ensemble, en fils et filles du Bénin, accepter de nous sacrifier afin de gagner la réconciliation, l'unité et le développement de notre cher pays. La recherche de la paix, de l'unité et de l'épanouissement de tous est la meilleure aumône à faire pour briser les barrières de la division et de l'égoïsme. Mais de manière concrète, nos efforts de réconciliation, d'unité et de développement seront agréés par Dieu s'ils nous permettent de réduire les écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Voilà pourquoi nous vous invitons vivement à œuvrer pour que les plus pauvres ne sentent pas le poids de leur pauvreté au point d'en arriver au désespoir. L'essentiel à faire est de travailler à redonner la joie de vivre à tous et pour l'épanouissement de tous. C'est ce qui nous donne la fierté d'appartenir à une même nation.
aux familles, nous rappelons quels sont les lieux d'éclosion de la réconciliation. C'est en famille, cellule de base de la société, que tout effort de réconciliation doit commencer avant d'être harmonieusement expérimenté dans la société et dans la nation tout entière. Il est évident que tous, dans une même famille, ne sauraient avoir la même vision des choses, ni appartenir, par exemple, à un même bord politique. Mais cela ne devra jamais justifier les clivages familiaux au point de dresser farouchement les membres d'une même famille les uns contre les autres. Aussi, vous adressons-nous cet appel. Faites en sorte que toute forme de haine, de mépris et de mauvais agissements soit dépassée pour laisser place à une harmonie familiale. Celle-ci passe par l'acceptation mutuelle et aussi par l'art de l'écoute et de la parole délicate. Elle s'épanouit dans la prière qui est le socle de l'église domestique qu'est la famille chrétienne.
Aux leaders politiques, nous recommandons d'œuvrer pour la réconciliation et l'unité en vue du développement intégral de notre pays à travers la recherche constante de la vérité et de la justice dans la vie sociopolitique de notre pays. C'est ici l'occasion pour nous de réitérer l'invitation lancée aux acteurs politiques de tous bords pour l'organisation d'un dialogue vrai, franc et sincère. Pour ce faire, ils sont appelés à puiser aux sources de l'historique conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990.
À tous les citoyens, fils et filles de notre cher pays, hommes et femmes de bonne volonté, il nous faut rappeler que la réconciliation concerne chacun et tous. Elle passe par le changement de cœur et aboutit à la paix profonde tant recherchée. Notre mission, en tant qu'enfants de la même patrie, est de changer les cœurs pour construire la paix. Cela signifie que la paix durable dépend d'une transformation intérieure de l'homme et non seulement de la résolution de conflits extérieurs. Elle est une référence au changement des mentalités, à l'élimination des causes de discorde et à la promotion d'une culture de paix dans les relations interpersonnelles. Elle complète immanquablement les actions des institutions nationales qui ne peuvent réussir sans la transformation des cœurs. Il est donc question d'un effort individuel et collectif dans la dynamique de la réconciliation nationale. Il est question d'une mobilisation nationale autour des principes vitaux indispensables tels que stipulés par notre devise « Fraternité, justice, travail ».
Nous sommes confiants qu'à travers la prière, le jeûne et les sacrifices personnels, nous pouvons toucher le cœur de Dieu et obtenir pour nous et pour notre chère nation les grâces indispensables pour un sursaut patriotique collectif en vue de la réconciliation, de l'unité et du développement. Voilà pourquoi nous nous faisons le devoir de vous inviter une fois encore à intensifier les prières pour toute la nation, afin qu'elle ne sombre pas dans la division et l'instabilité en perdant les acquis du processus démocratique mis en œuvre au Bénin depuis 1990. Nous devons élever encore de façon plus pressante nos prières vers Dieu pour que la réconciliation nous permette d'aller plus loin dans l'harmonie de nos relations interpersonnelles et dans la cohésion sociale.
Conclusion. La réconciliation est un chemin pour l'unité et le développement d'une nation. Tout au long de ce message qui émane de notre cœur de père, nous avons cherché à vous faire découvrir le lien vital entre la réconciliation, l'unité et le développement. Vous l'avez compris? La réconciliation est la condition sine qua non pour qu'advienne le développement basé sur l'unité de tous les fils et filles de notre cher pays. Au lendemain de l'année jubilaire de l'espérance, la réconciliation se présente désormais comme le plus grand don à demander pour notre pays, où semble régner chez beaucoup un certain sentiment de désespoir. C'est pourquoi nous vous appelons à travailler à taire les autosuggestions pour nous ouvrir à l'unité et à coopérer au bien de tous. L'on ne peut imaginer une réconciliation sans sacrifice. Nous connaissons l'image de la jarre trouée qui rappelle l'engagement collectif pour le développement de notre nation.
Le lieu par excellence de cette synergie d'action, c'est la prière unanime que tous ensemble nous devons faire monter vers Dieu pour toute la nation. Nous nous tournons avec vous, vers la Vierge Marie, la Mère de l'unité et de la paix, qu'elle soutienne nos efforts au quotidien pour l'avènement d'un Bénin enfin réconcilié et harmonieux, uni, d'un même cœur et dans un même esprit. Prenons la prière de notre Père que notre Sauveur nous a enseignée et considérons-la comme une invitation à être des frères et sœurs, prêts à bâtir ce pays pour le bien de chacun et de tous.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ont signé Son Excellence Monseigneur Roger Houmbedi, archevêque de Cotonou, président de la Conférence épiscopale du Bénin. Son Excellence Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Nouveau, vice-président de la Conférence épiscopale du Bénin. Son Excellence Monseigneur Bernard de Clairvaux-Toja, évêque de Djougou, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Bénin. Son Excellence Monseigneur François Nyohosu, évêque de Dassa, conseiller. Son Excellence Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou. Son Excellence Monseigneur Clé Feliho, évêque de Kandi. Son Excellence Monseigneur Martin Adjou, évêque de Ndali. Son Excellence Monseigneur Eugène Cyril Hundekon, évêque d'Abomey. Son Excellence Monseigneur Antoine Sabibio, évêque de Natitengo. Et enfin, Son Excellence Monseigneur Kofi Roger Anoumou, évêque de Lokusa. Donné à Cotonou le 14 février 2026 en la mémoire de Saint Cyril et Méthode.
Justice envers les opprimés, abusés, oubliés, repoussés. Réconcilions-nous avec tout l'univers, que notre monde soit.